Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce Flash Info au micro. Nanit Talani, les 15h à Washington, 20h à Segbana et Parakou, c'est au Bénin. Au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, président par intérim, a officiellement lancé ce dimanche la campagne pour la présidentielle du 6 mai, censée mettre fin à 3 ans de régime militaire. M. Déby se présente comme le garant de la sécurité et du développement économique. Lors de son discours d'ouverture à N'Djamena, le général Déby a promis de renforcer la sécurité intérieure pour assurer la paix et la stabilité au Tchad. Il a également mis en avant ses projets de modernisation de l'agriculture, de développement industriel ainsi que des initiatives pour améliorer les infrastructures routières et l'accès à l'électricité fiable. L'élection du 6 mai verra pour la première fois dans l'histoire du Tchad un président et un premier ministre en fonction s'affronter dans les urnes. Succès Masra, ex-opposant farouche, récemment nommé premier ministre, figure en effet parmi les 10 candidats à la présidentielle. Les évêques burundais dénoncent la tentation du monopartisme, les exécutions extrajudiciaires, la corruption et l'impunité dans le pays à 1 an des élections législatives. Selon eux, il est nécessaire que soit renforcé un régime qui fasse place à toutes les formations politiques, y compris celles qui sont en opposition à l'égard du parti au pouvoir. Nous savons combien le Burundi, de manière récurrente, a sombré dans la violence suite à l'exclusion et à la recherche exacerbée du pouvoir. Aujourd'hui, cela demeure pour nous une préoccupation vu qu'il existe des signes de ceux qui voudraient nous faire revivre le système politique révolu du monopartisme, dénonce la CECAB, la Conférence épiscopale catholique du Burundi. Le Cameroun a inauguré le musée d'un de ses plus vieux et influents royaumes. C'est à Fumba, la capitale historique des Bamoun, à la place royale, que samedi ont été accueillis des milliers de sujets Bado venus de tout le pays, en plus des 2000 invités à la tribune officielle dignitaires autour de leur roi Mohamed Nabil Mforimo Mbombo Njona, ministre préfet diplomate. Notons que le Cameroun compte quelque 270 ethnies aux coutumes et langues différentes et plus de 80 chefferies de premier degré dans le royaume et sultanat issus de l'époque coloniale. Le royaume Bamoun, fondé en 1384, est aujourd'hui l'un des plus anciens d'Afrique subsaharienne.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
L'Ukraine admet que la situation est tendue sur le front Est où une armée russe en supériorité numérique pousse toujours plus afin de s'emparer de la localité stratégique de Tchachiv Yar face à des forces ukrainiennes au faible stock de munitions. Le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Oumerov, a affirmé avoir rendu visite à des soldats dans la zone où se déroulent actuellement des combats. Sur ce front oriental, où la situation est tendue, les troupes russes tentent une percée à l'ouest de Bakhmout, une ville qu'elles ont conquise en mai 2023 au terme d'une bataille particulièrement sanglante et destructrice. L'armée israélienne se félicite d'avoir pu compter sur une coalition défensive d'alliés internationaux dirigée par les États-Unis avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres pays pour contrer l'attaque iranienne. L'attaque sans précédent de l'Iran a été contrée par une défense sans précédent. C'était la première fois qu'une telle coalition travaillait ensemble contre la menace de l'Iran et de ses mandataires au Moyen-Orient, a affirmé le porte-parole de l'armée Daniel Hagari. L'Iran a lancé samedi soir plus de 350 projectiles, des missiles balistiques, des missiles de croisière, des roquettes et des drones en direction d'Israël et d'autres pays de la région auraient pu recevoir cette menace en chemin, a déclaré M. Hagari. Les réactions se multiplient après cette attaque sans précédent menée donc par Israël contre l'Iran. Washington dit afficher son soutien inébranlable à Israël. Notre engagement en faveur de la sécurité d'Israël face aux menaces de l'Iran et de ses relais dans la région est inébranlable, a écrit le président américain Joe Biden. C'est la fin de ce bulletin.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions sur VOA Afrique. Eric Maniakiza avec vous. Ce soir, nous parlons du rôle des missionnaires dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Michel Père Joseph assure la production et la réalisation. Le dialogue des religions nous plonge dans l'histoire complexe du Rwanda où l'empreinte des missionnaires catholiques s'est mêlée à la politique coloniale belge, jetant les bases d'une tragédie qui culminera en 1994. De la tutelle de la Belgique sur le Rwanda à l'imposition de classifications ethniques en passant par l'évangélisation forcée et la manipulation politique, nous explorons comment ces éléments ont contribué à une fracture sociale profonde menant ultimement au génocide des Tutsis. Restez avec nous à l'écoute pour une analyse approfondie de ce chapitre sombre de l'histoire rwandaise. Je suis en ligne avec la journaliste Colette Brackman, auteure d'un article intitulé « Dossier Rwanda, lumière sur un génocide ». Colette, bonsoir.
Bonsoir.
Je signale que vous êtes chercheuse spécialiste de la région des Grands Lacs, notamment le Rwanda, le Burundi et la RDC. Vous suivez de près les événements qui s'y déroulent depuis plusieurs décennies. Colette, quel rôle les missionnaires catholiques ont-ils joué dans la construction de l'identité ethnique au Rwanda pendant la période coloniale belge?
Mais lorsque la Belgique reçoit un protectorat qui lui est donné par la Société des Nations sur le Rwanda et le Burundi, qui sont d'anciennes colonies allemandes, la Belgique est tout à fait absorbée par le Congo, qui est sa colonie. Sur le Rwanda et le Burundi, elle a un protectorat et elle essaye de partager le fardeau, si l'on peut dire, en invitant les missionnaires, en l'occurrence l'Ordre des Pères Blancs, qui s'installent au Burundi et au Rwanda. Les Pères Blancs s'installent, ils reçoivent des domaines foncier, on confisque des propriétés d'agriculteurs locaux, on donne de grands domaines fonciers aux pères blancs et au sommet des collines, les pères blancs installent leur mission et les pères blancs d'abord essaient de convertir la population et de la faire abandonner ses croyances ancestrales, sa religion. Il y a une religion en tout cas au Rwanda, on vénère Imana. Les pères blancs décrètent que tout ça c'est du passé, que désormais il faut se convertir au catholicisme, et les Pères Blancs font le choix de collaborer avec ce qu'ils appellent, eux, les élites tutsis. Les élites, c'est-à-dire les éleveurs, surtout une population d'éleveurs et une population que eux qualifient avec leurs critères européens de nobles, de gens qui sont à la cour du Mwami, qui sont des dignitaires, si vous voulez, du royaume, et puis plus largement la population tutsi. Et donc, ils réservent leurs écoles aux élèves tutsi. Et pour eux, avec mépris, ils disent que les Hutus sont des cultivateurs, des paysans, et qu'ils ne doivent pas aller à l'école, ils n'ont pas droit à l'instruction. Et donc, les missionnaires créent un système de discrimination au niveau de l'enseignement. Les Belges qui administrent ces pays imposent une carte d'identité qui porte la mention Hutu ou Tutsi, ce qui n'existait pas parce que c'était les gens avaient plutôt des distinctions d'activité. Les uns étaient des agriculteurs, les autres des éleveurs avec des passerelles et des services rendus entre les deux. Et donc les Belges et les Pères Blancs séparent la population en deux groupes et privilégie pendant des décennies ce qu'ils appellent les Tutsis, les Amitiques, l'hypothèse Amitique, qui sont revenus d'Abyssinie, ce sont les cousins des Éthiopiens, enfin toutes sortes de une lecture très raciale fondée sur les apparences de l'histoire. Et donc il y a un déséquilibre, évidemment à terme ce déséquilibre provoque le mécontentement des Hutus qui sont des agriculteurs qui n'ont pas accès à l'école, qui se sentent discriminés et qui commencent à s'organiser dans des mouvements nationalistes. Et donc le virus de la division a été, si j'ose dire, inoculé à cette population par les influences extérieures.
Quand les colons ou les missionnaires arrivent, ils trouvent une autorité traditionnelle et religieuse déjà établie. Comment
ils parviennent à affaiblir ces structures traditionnelles et religieuses rwandaises au profit du pouvoir colonial et de l'évangélisation.
Et ils essaient d'abord par la conquête, parce qu'ils forcent l'entrée, si vous voulez, les Allemands avaient déjà commencé, les Belges ont continué, ils forcent l'accès à la cour du Mwami. Ils l'obligent à les recevoir alors qu'ils ne le souhaitaient pas. Ils s'imposent, si vous voulez, ils s'imposent de force. Et puis viennent les mesures de séduction administrative, ils disent au Mwami, on va respecter votre autorité, vous allez rester le souverain reconnu, mais vous allez appliquer nos lois et nos règlements, et aussi vous allez vous convertir au vrai Dieu, à notre religion que nous allons vous enseigner. Et le premier roi avec lequel les Belges sont en contact refuse, il sera destitué, et c'est son successeur en 1930, Muzinga, qui accepte le baptême. Et là, c'est une grande cérémonie au Rwanda, il accepte d'être baptisé par les perdants, par les missionnaires, d'entrer donc dans l'Église catholique, et à la suite du Mwami, de sa conversion, ceux qu'on appelle les nobles, l'élite, les Tutsis, si vous voulez, vont se convertir en masse, vont donner l'exemple, et finalement le Rwanda, le Burundi aussi, mais le Rwanda sera consacré, entre guillemets, consacré au Christ roi, et deviendra un des succès de l'évangélisation de l'Afrique. Il sera cité en exemple comme un grand succès de l'Église catholique qui a réussi à évangéliser toute la population, lui faire oublier ses croyances traditionnelles, ses religions, pour adopter le catholicisme, mais aussi la division entre les groupes.
Alors, on sait qu'au Burundi, le roi Nambutsa IV Bangwichenge, lui, s'est converti à l'islam. En quoi la conversion religieuse des Rwandais, encouragée par ces missionnaires, a eu un impact sur la structure sociale et politique du pays?
L'impact, en tout cas au Rwanda, a été énorme parce que c'était un pays considéré comme l'enfant chéri de la coopération belge, le bon élève, le pays modèle où toute la population était christianisée. Mais en même temps que cette christianisation, tout le monde allait à l'église, et ça c'est une chose, mais il y avait aussi les cartes d'identité avec la mention ethnique qui étaient imposées par l'autorité coloniale. Donc tout citoyen rwandais devait produire ces documents d'identité qui indiquaient s'il était Hutu, s'il était Tutsi. Après l'indépendance, ces cartes d'identité avec mention ethnique vont se perpétuer jusqu'en 1994 et elles seront un outil du génocide parce que les Tutsis seront massacrés parce qu'on pouvait les identifier avec leurs cartes d'identité.
Et comment les missionnaires catholiques ou des pères blancs d'Afrique qui étaient justement impliqués au Rwanda ont-ils justifié leur coopération avec les autorités coloniales belges malgré les conséquences désastreuses sur la société rwandaise?
Mais les conséquences à l'époque, ils les ignoraient complètement. Ils pensaient, à tort ou à raison, enfin plutôt à tort, mais ils pensaient qu'ils allaient faire, entre guillemets, il y avait un racisme. Il faut bien comprendre qu'il y avait une sorte de racisme ambiant où il fallait faire progresser, faire avancer les Rwandais vers les valeurs occidentales, les valeurs chrétiennes, qui étaient considérées comme un plus. Et que donc, les missionnaires étaient convaincus qu'ils apportaient quelque chose, ils apportaient un plus à cette population. Donc il y avait du racisme, il y avait du mépris, une ignorance terrible des coutumes, des traditions, des légendes de cette religion du Rwanda qui remonte à des siècles et des siècles. Mais il y avait ce mépris global pour tout ce qui était d'origine africaine, autochtone. Donc on devait, entre guillemets, les faire progresser vers ce considéré comme des valeurs supérieures qu'était le catholicisme. Et donc, pour faire progresser le catholicisme, les Pères Blancs se sont fondés sur une élite essentiellement tutsi, qu'ils ont formée, qui a reçu des privilèges et qui était au fond l'auxiliaire du pouvoir colonial. Ce qui signifie que pour la population populaire, si vous voulez, les agriculteurs, pour les gens plus pauvres, moins éduqués, celui qui donnait des ordres, qui faisait respecter la loi, qui a imposé des amendes, du travail obligatoire, des contraintes, ce n'était pas le blanc, c'était le contremaître tutsi. Et donc, il y avait une rancune dans la population, une rancune non pas à l'égard de l'Européen qui était au sommet de la pyramide, mais à l'égard de tous les intermédiaires qui faisaient appliquer la loi qui étaient les collaborateurs des Blancs. Et donc, cette rancune des Hutus a culminé jusqu'à la veille de l'indépendance, où on a vu la formation d'un mouvement politique qui s'appelait le Parmi Hutu, Parti pour l'émancipation du peuple Hutu, qui était un mouvement de, comme son nom l'indique, d'émanciper les Hutus, de les faire atteindre un niveau, disons, social et culturel supérieur. Et les Belges, la tragédie du Rwanda, c'est qu'à la fin des années 50, les élites Tutsis, avec lesquelles ils avaient collaboré depuis des décennies, les élites ont commencé à revendiquer l'indépendance du pays. Ils ont vu les exemples d'autres pays voisins, la revendication d'indépendance du Congo, le personnage de Patrice Lumumba, et ils se sont dit, mais pourquoi nous? Pourquoi est-ce que les Belges doivent encore nous diriger? Nous sommes très bien capables de diriger ce pays nous-mêmes. Donc ils ont commencé à contester l'autorité des Blancs. Et c'est à ce moment-là que le pouvoir colonial a basculé. Il dit, si c'est comme ça, puisque les élites Tutsis nous abandonnent, on va miser sur les autres, on va miser sur les Hutus. Et donc il y a eu un basculement complet du pouvoir colonial qui finalement a concédé l'indépendance au Rwanda, en le confiant le pouvoir à des Hutus, au premier président Kayibanda. Il y a eu des massacres, les premiers exodes de réfugiés Tutsis datent de 1959, de 1962. Donc il y a eu je crois que c'était 300 000 Tutsis qui ont dû quitter le pays. On a brûlé leurs maisons, on les a pas tellement tués, mais on les a forcés à quitter le pays avec cette espèce de motivation disant « Vous êtes venus d'Éthiopie, vous êtes des envahisseurs, vous n'êtes pas de vrais Rwandais, vous devez quitter, retourner en Éthiopie, en Abyssinie, le pays d'où vous venez. » Donc c'est ce basculement de l'autorité coloniale qui est à l'origine donc de toutes ces tensions ethniques.
Donc pour vous, les politiques mises en place par les missionnaires et les autorités coloniales ont contribué à la montée du nationalisme Hutu et à l'oppression des Tutsis?
Elles ont formulé, si vous voulez, les revendications des Hutus. Mais c'est eux-mêmes qui avaient créé les inégalités à partir de 1930. Et puis après, à la fin des années 50, pour des raisons politiques, parce que les Tutsis réclamaient l'indépendance, les missionnaires, les colons, le colonisateur a changé d'alliance. Il a basculé, il a dit non, finalement, nous allons défendre les revendications des Hutus. Parce qu'ils avaient l'impression que les Hutus seraient plus, comme on disait à l'époque, plus dociles, plus proches d'eux, plus dociles, qu'on allait pouvoir mieux les manipuler. L'histoire montrera que ce n'était pas exact, évidemment. Mais ils ont pensé ça. Puisque les Tutsis se rebellent et veulent leur autonomie, on va miser sur les Hutus qui vont nous écouter, on va garder de bonnes relations. Ils sont plus perméables à notre influence, ils sont plus dociles. Et c'est ce basculement qui est à l'origine de la tragédie du Rwanda.
Poursuivez le dialogue des religions. Nous parlons du rôle des missionnaires dans le génocide rwandais. Notre invitée, c'est la journaliste Colette Brackmann, auteure d'un article intitulé « Dossier Rwanda, lumière sur un génocide ». Colette, voudriez-vous nous parler davantage des efforts des missionnaires pour assimiler les Rwandais à la culture occidentale et comment cela a influencé les dynamiques sociales et identitaires?
Mais les missionnaires ont fait beaucoup, quand même, ils ont fait beaucoup pour alphabétiser les gens, leur apprendre la langue française et lire et écrire en français, les initier aux sciences et tout. Ils ont formé des historiens rwandais, mais toujours avec le prisme, leur prisme ethnique et racial, si vous voulez. Ils ont aussi créé des fermes modèles, ils ont essayé d'initier les paysans à ce qu'eux considéraient, mais ça c'est un peu un phénomène général, comme une agriculture plus productrice, différente des techniques d'agriculture culture associée que la population pratiquait jusqu'alors. Jusqu'alors, on mélangeait, on cultivait, on avait en même temps une vache ou du petit bétail. Les activités étaient mélangées. Et les Blancs disent non, c'est plus productif de spécialiser les agriculteurs d'un côté, les éleveurs de l'autre. Donc, ils ont essayé d'amener ce qui, dans leur esprit, était des progrès, mais qui accentuait la division et tout. Et surtout, le colonisateur s'est entièrement reposé sur les églises. Au Congo, c'est différent. Au Congo, il était le responsable direct, si vous voulez. Et donc là, il y a eu un partage du travail avec des administrateurs et tout ça. Mais au Rwanda et au Burundi, ils se sont vraiment reposés sur les structures d'église en essayant d'empêcher d'autres cultes, notamment protestants ou adventistes, de s'implanter, enfin le monopole de l'église catholique. Et c'était un grand moment d'histoire au Rwanda. Donc dans les années 30, on a consacré le Rwanda au Christ roi. Et là, pour le Vatican, c'était un grand succès de l'église catholique qui a décrété que le Rwanda était le pays le plus christianisé au monde, où 90% de la population avait adhéré à la religion catholique. C'était considéré comme un grand succès, mais personne ne s'est posé la question de la sincérité de ces conversions et du degré de christianisation, si vous voulez. Et moi, je pense que c'était plus un réflexe opportuniste où la population était obligée, et puis ceux qui réfléchissaient se sont dit on va se mettre du côté des Blancs, comme ça on n'aura pas d'ennui.
Et quels étaient les autres intérêts politiques et économiques sous-jacents à l'action des missionnaires catholiques et de la Belgique coloniale au Rwanda?
Mais la Belgique avait, au Rwanda et au Burundi, elle s'était vue confier un mandat par la Société des Nations et puis par les validés après la guerre 40-45 par les Nations Unies de gérer ces anciennes colonies allemandes et d'avoir un protectorat et donc de faire progresser ces pays, si vous voulez, dans les sciences, les techniques, enfin, de faire monter le niveau de vie, d'améliorer les cultures, d'alphabétiser la population suivant les normes européennes. Et donc, le Rwanda et le Burundi étaient des pays sous tutelle. Et donc, il y avait des contrôles de l'ONU qui venaient voir si la Belgique administrait correctement, n'exploitait pas indûment. Par exemple, la Belgique n'exploitait pas les mines au Rwanda et au Burundi parce que ça n'était pas prévu par les accords de tutelle. Donc, elle n'avait pas un très grand intérêt économique à l'inverse du Congo où la Belgique, qui était la puissance coloniale avec une autorité pleine et entière, pouvait déjà exploiter au maximum les ressources du Congo. Au Rwanda et au Burundi, c'était différent. Il fallait respecter les pouvoirs locaux, ce qu'ils ont fait, travailler avec les Mwami et tout ça, mais ne pas exploiter économiquement les ressources du pays parce que la tutelle ne l'autorisait pas et qu'il y avait des inspecteurs de l'ONU qui venaient vérifier. Et si le Mwami a été destitué par les Belges en 1959, c'est parce que Zinga prévoyait de se rendre à New York, d'aller plaider aux Nations Unies pour demander à l'autorité suprême, si l'on peut dire qu'étaient les Nations Unies, de mettre fin à la tutelle de la Belgique et de laisser les Rwandais, toute la population rwandaise, s'autodéterminer et se gérer elle-même. Et les Belges étaient avertis de ce projet de voyage du Mwami Muzinga qui allait aller à New York, et il est mort quelques jours avant son départ. On a dit que c'était une maladie soudaine, inconnue, on n'a jamais très bien su, mais la croyance, tout le monde pense qu'il a été empoisonné. On dit qu'il a reçu une piqûre de son médecin, qu'il n'était pas son médecin habituel avant de partir, et que c'était une piqûre qui s'est avérée mortelle. Donc tout le monde en déduit qu'il aurait été empoisonné, mais ça n'a jamais été vraiment démontré.
Alors, la substitution de la religion catholique à la religion traditionnelle a contribué à la polarisation ethnique et à la montée des tensions au Rwanda. Existait-il des preuves de complicité ou de collaboration entre les missionnaires et les acteurs locaux dans la planification ou l'exécution du génocide rwandais? qu'on a vu en 94.
Pas vraiment, parce que depuis les années 60 jusqu'à 90, les églises donc étaient gérées par les missionnaires ou par des curés locaux, avaient été considérées comme des lieux de refuge. Il y a eu plusieurs fois des massacres ethniques et des tueries au Rwanda, mais les populations avaient pris l'habitude de se réfugier dans les églises, et là les églises étaient un peu des sanctuaires, au moins on ne tuait pas. On brûlait les maisons, on brûlait les cages, mais on ne tuait pas. Et par contre, en 94, les choses sont différentes. Les tueurs savent que les gens ont l'habitude d'aller dans les églises. Et ils les poussent vers les églises, ils les chassent dans les campagnes, ils poussent les Tutsis vers les églises. Et beaucoup de Tutsis, ils vont volontairement en disant on a toujours été protégés quand on était dans l'église, au moins là, on ne va pas venir nous tuer. Or, c'est le contraire qui se passe. Les églises, en 94, se transforment vraiment en piège où les Tutsis se rendent en croyant être protégés. En fait, ils y deviennent prisonniers. Les tueurs assiègent l'église, ils mettent le feu, envoient des balles vers l'intérieur ou des grenades, dévastent les églises, et donc les églises ne sont pas épargnées. Quant aux missionnaires étrangers, j'en ai vu moi-même beaucoup qui ont fui. Ils ont vu que les Tutsis étaient à l'intérieur de l'église, que les tueurs interamoués, les groupes de tueurs se rapprochaient de l'église. Le curé a fui, il s'est caché dans la brousse, il est revenu. Et il y en a un que j'ai rencontré qui m'a dit « La moitié de mes paroissiens a tué l'autre moitié. » C'est-à-dire, une moitié qui était des Hutus génocidaires ont tué une autre partie qui était les Tutsis réfugiés dans son église. Et lui, avec rien d'autre que son crucifix et tout ça, il n'a rien pu faire. Il n'a protégé personne, il n'a tué personne, mais ils étaient totalement à la fois impuissant et ne comprenant pas sur le fond ce qui se passait réellement. Et alors je pense qu'il y a quand même aussi des membres du clergé rwandais ou tout qui ont contribué, participé au génocide ou qui ont dénoncé les Tutsis qu'ils avaient dû héberger et qu'ils les ont désignés au groupe de tueurs qui sont venus et qui les ont achevés.
Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions qui aborde sous chapitre sombre de l'histoire rwandaise où les missions religieuses se sont mêlées à la politique pour façonner le destin d'une nation. Nous étions avec la journaliste Colette Brachmann, auteur d'un article intitulé « Dossier Rwanda, lumière sur un génocide » et qui nous a éclairé sur le sujet. Colette, merci.
Merci aussi.
La tragédie du Rwanda nous rappelle que lorsque la religion est utilisée comme un outil de domination et que la culture est déformée pour diviser, les conséquences peuvent être dévastatrices. C'est un rappel de la responsabilité morale des acteurs historiques et contemporains à cultiver la paix, l'harmonie et la justice, plutôt que de semer la discorde et la haine. Eric Mandrakiza vous remercie de suivre VOA Afrique. Michel Claire-Joseph a assuré la production et la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.
programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com.